France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à mon invité d'aujourd'hui, l'historienne, professeure de l'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase, Aline Alko. Tallinn, termination. Chère Tallinn, êtes-vous bien installée?
Oui, je suis bien installée et ravie d'être de nouveau parmi vous et l'émission et toute l'équipe de l'émission de Chrétien d'Orient.
Eh bien, nous sommes ravis aussi. Alors, je vais vous lire quelque chose pour commencer. 1920, collection privée, Alep, hôtel Baron. L'unique hôtel de première classe à Alep. Chauffage central partout, confort parfait, situation unique, le seul recommandé par les agences de tourisme. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette annonce très alléchante ?
C'est une annonce publicitaire pour cet hôtel qui était installé depuis le début du XXe siècle sur l'une des têtes de pont de la Bagdadbahn, le célèbre chemin de fer qui devait aller rallier Berlin à Bagdad. Bon, le dernier tronçon n'a pas été terminé, mais en tout cas, Alep a été l'hôtel Baron à Alep a été construit dans cet esprit pour offrir aux voyageurs venus en général d'Occident vers l'Orient, eh bien une étape agréable d'un certain standing, enfin le standing attendu par les hôtes prestigieux connus de l'époque, comme l'archéologue Max Malouan, l'écrivaine Agatha Christie et d'autres.
Bien sûr, on va parler des grands hôtes.
Et qui se rendaient en Syrie.
Oui. Je suis très heureux de consacrer une émission à un lieu comme celui-ci, un hôtel où bat le cœur de la vieille Syrie. Alors si, comme dit l'adage, il est des lieux où souffle l'esprit, quel est pour vous cet esprit qui souffle dans l'hôtel Baron auquel vous avez consacré votre livre « Hôtel Baron, roman géopolitique ».
Alors, c'est pas tellement moi qui considère qu'il souffle un esprit, c'est-à-dire que c'est un hôtel qui a fonctionné jusqu'à... Enfin, bon, aujourd'hui, il est désaffecté, mais qui a beaucoup travaillé sur le thème de la nostalgie et du prestige et du mystère attaché aux différents hôtes qui s'y sont rendus. Donc, j'ai mentionné quelques noms tout à l'heure. On peut rajouter plein d'autres noms, en particulier Lawrence Darabi, le général Alem. Le général de Gaulle, enfin tout le monde est passé par Alep, de sorte que c'est un lieu imprégné d'histoire et qui a, tout au long de son existence, célébré sa propre histoire en affichant en particulier dans le salon et dans le vestibule les marques du passage de ces hôtes aventuriers. Il y a en particulier la fameuse note de bar, laissée d'ailleurs impayée par Lawrence Darabi, etc. Donc c'est un lieu qui est extrêmement marquant. Moi-même, j'y suis passée il y a vraiment plusieurs décennies et j'avais été particulièrement frappée par l'unique soirée, l'unique nuit que j'y ai passée. Et donc, c'est un lieu inspirant. Mais je dirais un lieu inspirant comme beaucoup d'hôtels. L'hôtel, c'est un petit peu un lieu commun de la littérature, mais aussi un lieu commun du cinéma. C'est le hall dans lequel on passe et on repasse. C'est aussi une porte d'entrée et une chambre à remonter le temps. C'est un petit peu sur cette base-là que j'ai tenté de construire un roman géopolitique qui, malgré le titre, ne reste pas campé dans l'hôtel Baron. Alors certains peut-être trouveront que c'est un petit peu dommage, mais en fait, c'est un hall, c'est une porte d'entrée.
Mais je crois qu'à l'origine, vous vouliez faire une sorte de roman Cluedo avec une intrigue à la Agatha Christie qui se serait passée uniquement dans l'hôtel Baron.
Oui, j'aurais voulu. Bah, peut-être que j'y arriverai un jour, il faudrait que je tente de le réécrire, mais il faut un esprit plus systématique que le mien pour écrire une sorte de Cluedo géopolitique dans lesquelles, effectivement, on articulerait plusieurs histoires à l'intérieur de l'hôtel, ce qui est possible. Hein. Je me suis procuré précisément les plans de l'hôtel, etc. mais je n'ai pas pris cette direction parce que irrésistiblement j'ai quand même besoin de bouger, j'ai besoin de bouger dans la vie, j'aime bien voyager, voyager un petit peu en dehors des clous quand cela est possible. Et il se trouve que dans ce deuxième roman géopolitique, un petit peu comme dans le premier qui s'appelait Les Galaxies Mercuriens, j'ai vraiment irrésistiblement besoin de faire bouger mes personnages.
Vous partez jusqu'aux glaces polaires quand même là.
Ah oui, alors là celui-ci effectivement il tend une diagonale un petit peu inattendue, enfin quoi que la couverture le laisse entendre clairement puisqu'on juxtapose le logo, l'étiquette à bagages de l'hôtel Baron avec un timbre du Schwalbard.
Vous brouillez les cartes du Cluedo là.
Bon, je brouille un peu, donc le Schwalbard c'est le Spitzberg, on part dans les confins arctiques de la Norvège, mais après tout c'est tout à fait à la mode.
C'est dans un roman, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Oui, je peux faire ce que je veux, mais je vois aussi que l'actualité s'intéresse beaucoup à ces questions arctiques, et c'est précisément en se basant sur cette actualité.
Sur votre roman.
Non, peut-être pas. C'est pas le Groenland, mais enfin, on en est malgré tout pas très loin, et ça montre l'importance des enjeux liés à l'Arctique pour les grandes puissances d'aujourd'hui, d'où l'idée.
Chère Taline, on dit que depuis le balcon de l'hôtel Baron, un roi a proclamé l'indépendance de la Syrie en 1920. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode ?
Oui, bien, c'est la promesse du royaume arabe qui n'a pas été tenue par les alliés, en particulier par les Britanniques qui, comme vous le savez, pendant la Première Guerre mondiale, sous la houlette justement du célèbre Lawrence d'Arabie, avaient rallié les tribus arabes au camp des alliés, et donc contre l'Empire ottoman. Et finalement, ce royaume arabe ne se fera pas à cause des promesses anglaises non tenues, mais surtout à cause des partages impérialistes et de la nécessité pour la France de se tailler elle-même une part qui sera celle qui lui reviendra dans le cadre des mandats français, conformément aux accords secrets de la Première Guerre mondiale, qui sont les célèbres accords Sykes-Picot, qui ont déterminé toute la suite de l'histoire du Moyen-Orient ou du Proche-Orient pendant le XXe siècle et finalement jusqu'à nos jours, parce qu'on reste encore dans les conséquences de ces partages, en particulier en ce qui concerne la Syrie. Et donc, effectivement, ça me semblait être une référence nécessaire.
Et qu'est-ce que cet hôtel a à voir avec l'histoire des chrétiens d'Orient ?
Alors, ce qu'il a à voir, c'est que déjà, ce sont des chrétiens d'Orient qui l'ont
fondé. En 1912.
Alors, écoutez, je ne sais plus, je n'ai plus rêvé. Oui, 1911, 1912, ou peut-être qu'il y avait déjà un premier hôtel qui avait été fondé par ces fameux frères Mazloumian.
Mazloumian, c'était l'hôtel Ararat. D'abord.
Ah, peut-être. Ouais, alors, vous voyez, vous avez mieux.
J'ai bien travaillé.
Vous avez mieux travaillé que moi. Moi, j'ai un petit peu oublié toute cette documentation, mais vous voyez qu'on a. On se complète. Et donc, ces frères Mazloumian qui venaient, je ne sais plus très bien, mais vous allez vous en souvenir.
Anatolie centrale.
Ah, voilà,
et ils allaient jusqu'à Jérusalem.
Et donc, ils arrivaient d'Anatolie. Comme il s'agissait à la veille de la Première Guerre mondiale, on était encore dans l'Empire ottoman, vaste empire. Les Arméniens circulent malgré tout. Ils ne restent pas cantonnés dans cette Anatolie qui, d'ailleurs, plutôt un repoussoir à l'époque, enfin un lieu quand même qui n'est pas très attirant pour qui a un esprit un peu entrepreneurial. Et donc ces frères Mazloumian débarquent à Alep et fondent cet hôtel dans avec l'idée évidemment de pallier le manque évident d'hôtellerie à Alep.
Oui, d'hôtellerie.
D'hôtellerie, parce que je crois qu'à l'époque il n'y a que des caravanserais absolument pouilleux, des endroits qui ne sont pas du tout destinés à accueillir des prestigieux hôtes occidentaux. Et je dis ça parce que les Arméniens, en fait, pas seulement en Syrie, mais jusqu'à Singapour et même jusqu'à Hong Kong, sont très actifs dans le domaine de l'hôtellerie. Ça, c'est au 19e siècle et au début du 20e siècle, en lien, bien sûr, avec les grands moyens de communication, c'est-à-dire les chemins de fer et les grandes lignes de paquebots transocéaniques. Et donc, l'hôtellerie arménienne au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est un phénomène relativement répandu, et les frères Mazloumian, finalement, en sont un exemple. Même si l'hôtel Baron, c'est pas l'hôtel Raffles de Singapour qui a été aussi fondé par des Arméniens. C'est pas grand hôtel. C'est un petit moyen hôtel, mais enfin qui a
qui est chargé d'histoire.
Enfin, il existe. Il est construit d'ailleurs de manière moderne, selon des techniques de construction modernes, je crois, en béton armé, etc. Enfin, c'est l'introduction à l'époque, l'introduction de la modernité. Puis il se charge d'histoire se patrimonialise, entre guillemets, et devient ce lieu chargé d'histoire.
Je vais vous lire un extrait de Milan Kundera. Dans l'essai « Une rencontre », il consacre un petit chapitre intitulé « L'idylle, fille de l'horreur » à partir d'un roman de Marek Bienczyk, Tvorki. Alors je vous le lis. Enfin, juste je précise avant que l'intrigue se passe durant la Seconde Guerre mondiale, dans un hôpital psychiatrique de Varsovie. Cet hôpital est devenu un refuge pour la jeunesse qui se cache des rafles. Et ils vivent leurs premières amours virginales, ils sont jaloux, etc. Mais tout ça dans une ambiance douce, baignée, écrit Kundera, de gentillesse obstinée. Et voilà ce qu'il écrit. « L'idylle qu'ils étaient en train de vivre était la fille de l'horreur. » De l'horreur cachée, mais toujours présente. Voilà le paradoxe luciférien. Plus cruelle est l'histoire, plus beau apparaît le monde du refuge. Fin de citation. Est-ce que vous n'avez pas voulu, vous aussi, raconter dans votre roman un monde du refuge en plein contexte de guerre syrienne?
Écoutez, vous me flattez déjà en me comparant à Milan Kundera, ça ne me serait pas du tout passé par l'esprit. Donc je n'ai pas une telle ambition, je vois bien le paradoxe luciférien, l'idylle. L'idylle, en tout cas... dans mon modeste roman géopolitique, c'est plutôt une idylle qui est une idylle amoureuse, puisqu'il faut quand même installer un petit peu de motivation personnelle dans le déplacement des personnages et dans leur volonté d'avancer, tout simplement. On est motivé dans la vie parfois par autre chose que simplement la géopolitique. Et donc, l'idylle du refuge, oui, enfin, quoique c'est quand même pas un refuge idyllique, ce que je décris, l'hôtel est pris sous les bombes. Et donc, l'héroïne, puisqu'il faut peut-être dire un mot, donc cette fameuse Diane, qui est officiellement employée par une organisation humanitaire vouée à la protection du patrimoine, a donc été envoyée à Alep pour faire l'état des lieux de la destruction du patrimoine à Alep, sachant que Alep contient un patrimoine absolument considérable. Ouais. Et donc l'idylle, dans une certaine mesure, elle fait la rencontre d'un enfant qui lui confie un objet. On va quand même pas dévoiler
non, pas tout, mais bon, vous pouvez.
Donc la rencontre d'un objet un peu particulier qui lui revient et qui donc va être un motif, une petite source d'intrigue. Et puis, elle rencontre également un médecin humanitaire arménien, enfin un médecin venu d'Arménie. Et là, je décris quelque chose qui est absolument authentique, parce que en 2016, effectivement, l'Arménie, donc 2 ans avant la révolution de velours, avait effectivement envoyé une mission humanitaire officiellement en Syrie, qui donc nécessairement travaillait plus ou moins aux côtés des Russes, qui étaient là depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et donc, cette mission humanitaire était censée s'occuper du sort des Arméniens d'Alep. Et je trouvais ça assez amusant de prendre la question de la présence extérieure dans cette ville en guerre, de la prendre vraiment par le tout petit bout d'une toute modeste équipe d'humanitaires envoyée par un tout petit pays, la République d'Arménie, qui s'occupe d'une minorité elle-même de plus en plus amoindris, qui sont donc les Arméniens chrétiens d'Alep.
Oui. J'ai dit le monde du refuge, mais il y a aussi le monde de la mémoire. C'est-à-dire, vous l'avez mentionné, il y a à la fois cette quête. Diane est missionnée pour évaluer le degré de perte et de destruction, donc la mission patrimoniale, et vous montrer un monde en ruine. Et donc, avec en plus la question sous-jacente dans votre livre, du troc, du trafic des trésors mésopotamiens. Est-ce que vous pouvez préciser encore un peu ce sujet ?
Le business, oui, alors je peux le business préciser. Du pillage. Je l'aurais encore mieux précisé si j'étais parvenu à remplir mon objectif qui était à l'époque vraiment de me rendre en Syrie exactement comme mon héroïne. Mais ça n'a pas été possible. Donc finalement, je me suis arrêtée au Liban et dans ces confins, j'ai dû transposer pas mal de choses. Mais enfin, au Liban, j'ai quand même eu pas mal de correspondants qui avaient une bonne connaissance d'Alep ou qui même avaient réussi à s'y rendre pour la description des destructions d'Alep. Je me suis beaucoup basée sur le témoignage et le travail photographique et même filmographique, si je me souviens bien, d'une architecte archéologue qui s'appelle Ouda Kassatli et qui m'a confié un certain nombre de documents, enfin que j'ai rencontré réellement, qui m'a raconté beaucoup de choses. Donc effectivement, ce monde en ruine tel qu'il était en 2016, avant qu'il y ait déjà une politique de restauration dans l'espèce d'entre-deux qu'il y a eu avant la reprise de la guerre civile, enfin avant la chute de Assad. Bon, tout ça est quand même un petit peu compliqué. Donc oui, effectivement, je voulais absolument faire l'état des lieux de ces destructions pour montrer que effectivement le patrimoine est pris en otage dans cette guerre civile. Et je voulais le faire aussi à des fins, disons, purement didactiques, puisqu'il se trouve que ce roman, je l'ai aussi écrit dans le cadre d'un séminaire que j'anime à l'INALCO, qui s'appelle Patrimoine et politique mémorielle, et que je l'ai écrit aussi dans ce cadre.
Dans un blog même, vous le diffusiez chapitre
par
chapitre.
Oui, c'est un blog, c'est un carnet hypothèse que d'ailleurs les auditeurs peuvent tout à fait consulter, qui s'appelle Patrimoine et politique mémorielle. Donc ce roman a été aussi écrit dans ce cadre, et donc il assume un petit peu cette fonction de didactique. Alors, quant aux histoires de trafic d'antiquité, oui, bon, on a bien vu combien ce patrimoine extrêmement riche de la Mésopotamie a été certes détruit, mais bien souvent, il est détruit aussi pour mettre en scène la mise en scène de la destruction, quoi, mais aussi pour cacher le fait qu'une grande partie est en fait pas détruite et injectée dans un trafic beaucoup plus juteux, qui est celui du commerce des antiquités. Et donc, dans le cas de Daesh, donc oui, trafic d'antiquités, pétrole, etc., tout ça est extrêmement lié, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre.
Je vais lire la page 53-54 de votre livre, où vous mentionnez non seulement le patrimoine, mais le patrimoine chrétien, qui est spécifiquement bombardé. « Alep, nous te détruirons. Au début de la guerre, on pouvait lire ces graffitis sur certains murs de la ville. Et Diane avait pu constater combien la destruction avait pu être massive, notamment dans le quartier de Jdeideh, adossé au rempart nord de la citadelle. Maronites, Syriens, catholiques, Arméniens apostoliques ou catholiques, Grecs catholiques ou orthodoxes, la plupart des minorités chrétiennes avaient leurs églises dans ce quartier, très systématiquement détruites par les dynamitages souterrains. »
Oui. Ben parce que oui, effectivement, il y avait aussi des souterrains, toutes sortes de dispositifs qui, effectivement, ont contribué à la destruction systématique de la ville et en particulier des églises et du patrimoine des chrétiens d'Orient.
Mais ils étaient visés spécifiquement en tant que chrétiens, ces quartiers, ou ils étaient pris dans le bombardement général?
Je ne saurais pas répondre précisément à cette question, précisément parce que je n'ai pas observé moi-même, je ne me suis pas rendue spécifiquement sur les lieux comme j'aurais voulu le faire, mais on suppose que oui, évidemment, étant donné les partis en présence, étant donné cette espèce de combat entre les islamistes, le quartier de ceux qu'on appelle les Turcos, les Ouïghours, etc. Enfin bon, tout ce monde-là est quand même pas très favorable aux chrétiens d'Orient, que je sache.
Ce qui est un sujet extrêmement actuel. Et que devient l'hôtel Baronne aujourd'hui?
Alors l'hôtel Baronne, je fais figurer une photo extrêmement récente dans mon livre, extrêmement récente parce qu'elle a été prise par le géographe Fabrice Balanche en octobre 2025. Donc on voit effectivement que le bâtiment est toujours debout, l'hôtel est évidemment fermé, on voit des volets ouverts, d'autres fermés, d'autres à moitié pendouillants. Je crains que l'hôtel pour l'instant ait laissé plus ou moins à l'abandon. Bon, il devient... Mais enfin, il est toujours debout, c'est tout ce qu'on peut constater. Et donc, j'imagine prêt à être réinvesti par je ne sais quelle entreprise de restauration.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi, de ces petites idoles à lunettes ou à grands yeux qui égrènent tout votre livre. Ces petites figurines ou amulettes qui ont des visages hallucinés.
Oui, alors je peux vous en parler parce que c'est aussi l'une des multiples portes d'entrée de l'intrigue. Ces idoles à lunettes, elles sont absolument extraordinaires. Je partage cette passion avec ma nouvelle amie Sophie Cluzan, la conservatrice au département des antiquités orientales du Louvre. Donc, idoles à lunettes, ce sont des artefacts tout à fait spécifiques qui ont été trouvés par Max Malouane à Telbrink. Telbrink est aussi l'un des lieux de l'intrigue et qui se trouve dans la Syrie du Nord-Est, dans cette région de qu'on appelle Hasache à l'époque, mais qui est Hasake et qui est justement au cœur du Nord-Est syrien, qui est aujourd'hui tellement sous pression dans un nouveau contexte géopolitique qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Donc ces idoles à lunettes, elles ont le pouvoir de captiver le regard de toute personne qui les regarde, donc il faudra que les auditeurs jettent un œil sur les reproductions qui sont données dans le livre. Elles sont extrêmement anciennes. À ce jour, on ne connaît pas exactement leurs fonctions. Et il se trouve que, comme il s'agit d'artefacts qui tiennent dans le creux d'une main, dans le creux d'une main, et qu'en plus elles sont très nombreuses, j'imagine, pour les besoins de mon intrigue, mais sans avoir un grand risque de me tromper, qu'elles servent plus ou moins de monnaie d'échange dans les nombreux trafics qui se déroulent dans le nord-est syrien, où se déroule également une partie de l'intrigue et où les chrétiens d'Orient, de la région de Kameshliye par exemple, arméniens apostoliques ou arméniens catholiques, sont aux prises avec Daesh, aux côtés des Kurdes, le tout donc dans une situation extrêmement compliquée.
Voilà. Nous n'aurons pas le temps de rentrer plus en profondeur dans la situation syrienne contemporaine, mais, chère Taline, je vous laisse le mot de la fin.
Eh bien, écoutez, le mot de la fin, je ne sais pas...
Je vous prends de court, là.
Oui, le mot de la fin, c'est que c'est un roman qui, donc, a pour ambition de proposer donc une lecture géopolitique des grands problèmes contemporains. Ça ne se limite pas du tout à la guerre civile syrienne. C'est plus largement aussi un roman ambitieux qui est aussi à sa manière une critique de la mondialisation. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti et relevé. Et donc, j'espère qu'à ce titre, il intéressera les auditeurs.
Je vous remercie, chère Taline Termination, pour ce bain arméno-syrien dans l'Hôtel Baronne, ce petit monde du refuge et de mémoire que vous nous racontez dans votre ouvrage Hôtel Baronne, roman géopolitique. C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par Camille Maty, coordonnée par Claire Poinsignon. À la technique aujourd'hui, Bruno Mourlan. À très bientôt et bon dimanche.